Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La situation, vous la connaissez. Après le départ de Gérard Collomb, l'exécutif cherche une réponse politique. La vie gouvernementale a repris son cours cas par cas, en attendant un remaniement qui pourrait aller au-delà du simple remplacement de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Mais au-delà de ça, il y a la situation de la police dans une situation extrêmement tendue, avec un sentiment d'insécurité qui est là, avec également une menace terroriste. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il fallait entendre la parole des policiers. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Et David Lebars, vous êtes commissaire divisionnaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. J'aimerais savoir comment vous vivez ce moment un peu particulier. Et tout d'abord, que vous évoquiez avec nous l'arrestation de Redouane Faïd, donc ce prisonnier qui s'est échappé à deux reprises d'une prison. Comment l'a-t-on attrapé? Et au-delà de ça, quelle faille cela révèle-t-il sur le système pénitentiaire aujourd'hui?
Écoutez, vous me permettez du coup de démarrer avec une bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi mettre en valeur ce qui est réussi. L'arrestation de Redouane Faïd, c'est un très beau succès des enquêteurs de la police judiciaire, puisque c'est un individu dangereux. Il a été parfois présenté comme un braqueur romantique. Il avait un côté sexy dans les médias, mais il faut rappeler que c'est un braqueur dangereux, que à cause de ses actions passées, une policière a trouvé la mort, que cet individu n'avait pas hésité à s'échapper une première fois avec des explosifs. Et il était très important de mettre un terme à sa cavale, et c'est ce qui a été parfaitement mené et réussi par les enquêteurs de la police judiciaire.
Mais alors, est-ce que ça révèle qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de prisons en France qui sont mal gardées, David Lebars?
Alors, ce qui est certain, c'est que le sujet Redouane Faïd, ça n'est pas le sujet de sa cavale, puisque à deux reprises, les policiers y ont mis un terme. Le sujet, c'est son évasion.
Donc, vous voulez dire que c'est pas le sujet de la police?
C'est pas le sujet de la police, mais c'est le sujet du système pénal, je dirais, dans la globalité de sa chaîne qui est en question. Et je pense qu'il va être temps de réfléchir, et on est prêt à y contribuer, sur la façon dont les gens, en 2018, doivent ou pas être incarcérés. Moi, je pose une ou deux questions, mais est-ce que dans le système carcéral actuel, qui est très ancien et qui est basé sur un modèle qui n'est peut-être plus adapté à la société d'aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui a commis un délit et qui peut s'en repentir, une escroquerie ou une conduite en état d'alcoolémie, se retrouve dans une maison d'arrêt avec un individu multirécidiviste dangereux qui est un spécialiste du crime? Est-ce que c'est normal d'avoir cette situation-là en 2018? Est-ce qu'il n'est pas temps de se pencher sur un nouveau système carcéral qui soit peut-être plus souple pour les courtes peines ou les individus qui sont repentants, et plus ferme et plus sécurisé pour ceux qui ont commis beaucoup de délits et d'infractions graves?
Autre question, David Lebars, puisque vous êtes policier, vous êtes commissaire divisionnaire, est-il normal qu'un ministre de l'Intérieur démissionne? Quel est le bilan que vous tirez du mandat de Gérard Collomb, de la manière dont il a géré la place Beauvau?
Écoutez, des ministres qui démissionnent, ça s'est déjà vu. Bon, sur le départ de Gérard Collomb, il faut admettre qu'il y a eu une séquence politique un peu spéciale dans laquelle je ne rentrerai pas. On est un petit peu déçus parce que quelques jours avant sa démission, on avait tous eu, les patrons de syndicats, un appel du ministre nous assurant de son maintien et de son engagement. Et il s'est vraisemblablement passé quelque chose.
Il vous aimait pas? Il ne travaillait pas? Qu'est-ce qui se passait?
Alors écoutez, moi je crois que en ce qui concerne l'affection qu'il avait pour les policiers, je pense qu'elle était sincère, et je pense que ça s'est vu à la fin de son discours. On a vu une séquence difficile, hein, on a senti une froideur dans la passation, mais quand il a parlé des policiers, moi je l'ai trouvé ému et je l'ai parfois vu sincère. Et quand on l'a rencontré à plusieurs reprises pendant les 16 mois à la tête du ministère, nous avons eu quelqu'un à l'écoute. C'est pour ça que moi je resterai sur la position qui consiste à saluer.
C'était un bon ministre pour vous?
C'était un ministre à l'écoute, quelqu'un qu'on pouvait voir et avec qui on pouvait discuter des sujets sans difficulté, et qui avait l'air, contrairement à ce qui a pu être dit de lui, parfaitement au fait de certains dossiers et parfois surprenants.
Alors voilà. Pourquoi est-il parti?
Bah écoutez, ça, je pense que ce sont des raisons qui lui sont propres, sans doute des raisons politiques, et je pense pas autant techniques ou liées à la tête du ministère qu'on veut bien lui prêter.
On évoque l'affaire Benalla. Pour vous, cette affaire Benalla a-t-elle été importante? Est-ce qu'elle révèle quelque chose qui vous déplairait sur le fonctionnement de l'Élysée, David Lebars, vous qui êtes syndicaliste policier?
Je me suis beaucoup exprimé sur l'affaire Benalla, et j'ai dit dans les médias, et je le redis ici, que nous étions policiers assez surpris d'imaginer que quelqu'un qui avait une fonction officielle, hein, je le rappelle, il était adjoint à la chefferie de cabinet de l'Élysée. Cette fonction n'a pas été inventée pour Monsieur Benalla. Elle existait avant et elle était occupée par d'autres personnes. Je m'étonnais que certaines personnes à un niveau hiérarchique important prétendent ne pas connaître Monsieur Benalla, voire ne pas savoir qu'il était sur les services. Voilà, je maintiens cette position-là et on voit aujourd'hui que ce monsieur était beaucoup plus connu qu'on l'imaginait.
Voudriez-vous dire que ces personnes ont menti? Et si elles ont menti, est-ce qu'il serait possible, par exemple, que ce soit la place Beauvau qui ait donné Benalla à la presse, c'est-à-dire en quelque sorte dit qu'il y avait un dysfonctionnement qui était intolérable pour des policiers réguliers, si je mets ce terme entre guillemets?
Je ne sais pas qui a menti.
Vous savez qui a menti, puisque vous venez de dire que ces personnes faisaient semblant de ne pas connaître Alexandre Benalla.
Moi, je dis que certaines personnes ont été embarrassées de cette situation. Il y a deux sujets. Il y a la qualité de M. Benalla et les fonctions qu'il avait à l'Élysée, que je ne commenterai pas, puisque c'était un choix du président de la République. Et c'est parfaitement légal de recruter des gens qui soient de la société civile, qui puissent venir travailler comme collaborateurs de l'Élysée. La difficulté, c'était que quand M. Benalla se déplaçait sur des services qui étaient liés au déplacement du président lui-même, cette fonction-là, officielle, a débordé et l'a amené à observer un service d'ordre, à y aller en sa qualité d'observateur. Et cette présence-là, qui a sans doute été accordée sans être vraiment mise en place officiellement, a amené les débordements que vous connaissez. C'est ce qui a mis les policiers dans une situation difficile, parce que dans un premier temps, les premières victimes de ces images-là, ce sont les policiers, puisque ce type de violences-là, qui sont parfaitement inadmissibles, même si ce ne sont pas forcément des violences graves, mais la simple gestuelle...
C'était des violences graves quand même.
Mais sur le plan pénal, ça n'en sera pas. Ce sont des violences simples.
C'était des images extrêmement choquantes.
Ce sont des images choquantes, mais elles le sont d'autant plus.
Ça faisait vraiment un régime de nervis avec.
Quand on a appris la qualité de son auteur. On aurait eu un policier identifié sur ce type d'affaires, les faits auraient été très simples. Le policier aurait été immédiatement mis à pied et sanctionné. Il aurait fait l'objet d'une procédure. Je dirais que la difficulté de cette affaire, c'est qu'on s'est rendu compte que deux mois après, il ne s'était rien passé et que cet individu n'était pas un policier, mais travaillait à l'Élysée.
Voilà. Mais justement, David Le Bars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la police. Certaines personnes sont rassurées par la présence policière, d'autres ont peur des bavures policières. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que ces bavures policières, elles ne sont pas liées aussi à un climat de pression qui pèse sur la police, qui fait que certains policiers craquent et perdent leur nerf?
Les bavures policières en France sont des faits extrêmement rares. On peut en parler pendant des heures, se comparer à d'autres pays. Ce sont des faits, fort heureusement, extrêmement rares. Quand ils sont commis, quand ils arrivent, ils sont extrêmement sanctionnés. Le ministère de l'Intérieur est intraitable et les moindres déviances dans la police nationale, quand elles sont portées à la connaissance de la hiérarchie constatée ou dénoncée, font l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires mais administratives et les sanctions dans la police sont très lourdes. Évidemment qu'il faut les condamner. Je ne vous dirai pas à cette antenne que ça n'existe pas, puisque dans toute institution, dans tout métier, on peut avoir des débordements. Il faut que la position reste la fermeté et nous y tenons à tous les niveaux de la hiérarchie.
Est-ce que ça révèle un état d'épuisement de la police? Parce que on lit beaucoup de choses sur les suicides de policiers avec des statistiques élevées. Et vos collègues se plaignent d'être dans une politique du chiffre avec des pratiques absurdes. C'est vraiment ça? On vous demande d'arrêter des individus, de contrôler, de faire des contrôles au faciès, tout cela?
Alors, la politique du chiffre, il faut être aussi parfaitement franc, a été une des façons de gouverner l'institution et elle a été à la fois mal comprise et mal vécue. Il faut le reconnaître. On y a tous été soumis. J'en ai moi-même fait je l'ai à la fois subi et constaté. On n'a pas tous pu y résister ou l'adapter.
Donnez-nous des exemples de ce que ça signifie dans votre quotidien, David Le Bars, vous qui êtes commissaire divisionnaire.
Dans le quotidien, on s'est retrouvé, je vais faire un peu simple, non pas du jour au lendemain, mais de façon assez rapide, sur une gouvernance qui consistait à rendre des comptes par rapport à notre activité. Et dès le départ, on n'a peut-être pas pris en compte certains paramètres. Je vais vous donner 2-3 exemples. On a rapidement mis en place des tableaux de bord qui consistaient à vérifier les faits constatés. Les faits élucidés, c'est le qualitatif, les faits constatés, c'est le quantitatif. C'est un petit peu si vous demandez à un médecin, à la fin de l'année, de réduire le nombre de grippes. Si on demande à la police de réduire le nombre de délinquants, enfin en tout cas le nombre de faits commis par des délinquants, il faut éventuellement se donner les moyens de cette ambition et puis donner d'autres paramètres pour savoir sur quoi on lutte et comment on y parvient. Il faut distinguer la politique du chiffre de la bâtonnite. On a pu aussi avoir ici ou là...
La bâtonnite,
oui, c'est un terme qu'on peut connaître parmi les rangs policiers. La bâtonnite, c'est pas le terme péjoratif que vous imaginez, ça consiste à avoir de l'activité sur des paramètres purement chiffrés. Voilà, demander à une brigade X ou Y de ramener soit tant de PV, soit tant d'infractions, c'est pas forcément adapté aux circonstances locales. Et je crois que en 2018, après 10-15 années d'une politique du chiffre qui a troublé les rangs policiers, mais ce n'est pas la seule cause des maux de la police, il y en a beaucoup d'autres, il faut aujourd'hui trouver un moyen de rendre un service de sécurité aux Français et qui leur permette à eux de dire s'ils sont ou pas satisfaits de ce service-là. Et je crois qu'il faut faire appel à des gens du privé qui soient capables de mesurer l'indice de satisfaction. Il est peut-être plus important de savoir si quelqu'un a été bien reçu dans un commissariat ou bien pris en compte, plutôt de savoir si on leur a expliqué correctement qu'on a fait ou pas monter ou baisser la délinquance.
Mais justement, est-ce que vous avez l'impression que les missions de la police ne sont pas celles qu'elles devraient être ? On voit, par exemple, qu'il y a aujourd'hui certains maires, y compris d'ailleurs des maires de gauche, Martine Aubry, qui dit on aimerait plus de policiers, alors que d'autres ont des sensations d'avoir droit à des harcèlements policiers. Les missions de la police aujourd'hui, David Lebars, sont-elles bien affectées là où elles devraient l'être ?
Alors là, c'est le vrai sujet. Est-ce que les missions de la police sont celles qu'on attend de cette institution ? C'est le vrai sujet qu'il faut poser sur la table une bonne fois pour toutes. On a fait faire à la police et aux forces de gendarmerie depuis des années beaucoup de missions qui sont celles de, sans doute d'autres partenaires ou d'autres institutions, puisque c'est une institution qui tourne H24, c'est une mission de service public et pour l'hôpital comme pour la police, on a peut-être un petit peu trop rentré des missions et des charges indues. Alors il y en a beaucoup. Hein,
par exemple
des gardes statiques qui ne sont pas forcément du domaine du régalien, faire les procurations pour les gens, même si c'est un service qu'on comprend, ça prend des heures fonctionnaires qui sont considérables. On a souvent évoqué ces sujets-là, on les avait évoqués à l'époque avec le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, avec les ministres successifs. Ça, c'est un vrai chantier qui doit redonner du sens, de la confiance et de la reconnaissance aux policiers. Si on maintient la charge d'activité additionné à des missions indues, on n'arrivera pas à sortir la police de cette ornière qui consomme des heures fonctionnaires qui ne sont pas dédiées à la mission régalienne première.
Mais alors, depuis que le terrorisme est là, est-ce que c'est ça qui expliquerait que le sentiment d'insécurité progresse? Alors, on l'a vu récemment, par exemple, à Grenoble, où les habitants se sont émus de la présence de dealers avec, au contraire, l'absence de policiers. Est-ce qu'ils ont raison, David Lebars? Est-ce que, bon, on ne peut pas faire 36 choses à la fois? Et la lutte contre le terrorisme a aspiré la plupart des forces vives de la police aujourd'hui?
Alors, il est vrai que la lutte contre le terrorisme, et c'est parfaitement compréhensible, a continué d'aspirer à la fois des moyens humains et matériels pour la défense des Français et que c'est une mission, pour le coup, totalement prioritaire et régalienne. Il y a aucun débat là-dessus. Le résultat, c'est que pour les policiers de sécurité publique, comme je le dis souvent, la sécurité publique, il faut la remettre au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est la sécurité publique ? Quand vous êtes victime d'une infraction, le premier contact qu'un citoyen français va avoir avec la police, c'est celui de la sécurité publique, gendarmerie ou police. À l'inverse, le premier métier qu'un policier va découvrir après sa formation initiale, c'est également le métier de la sécurité publique. Et la sécurité publique, dans sa composante globale, est l'institution la plus en souffrance, c'est celle qui manque de moyens matériels, humains, des locaux désuets. J'ai envie de dire aussi, c'est la vitrine des touristes, hein, puisque quand vous êtes touriste et que vous venez en France, dans ce beau pays qui est le pays le plus visité, quand vous êtes malheureusement victime d'un vol, vous vous retrouvez dans un commissariat de sécurité publique et il va falloir un jour poser les assises de la sécurité publique et définir quelle offre de sécurité on veut pour améliorer le fonctionnement de cette institution.
Bon, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, David Lebars, c'est qu'il y a moins de policiers en France pour 100 000 habitants qu'en Allemagne, par exemple. Il y en a beaucoup moins. Hein. Il y a 169 policiers pour 100 000 habitants en France, 298 en Allemagne. Du coup, il y a un discours qui est en train de monter sur des polices municipales. Anne Hidalgo réfléchit à Paris pour en créer une. Quel effet cela provoque en vous ?
Alors déjà, au risque de surprendre, en France, il faut compter policiers et gendarmes. Nous sommes 250 000 hein, quand on compte les deux forces. Je pense pas qu'on soit sous-équipé en termes d'effectifs, même si on peut se comparer à d'autres pays.
Alors, il y a des chiffres encore plus importants. Hein. En Espagne, c'est 500 policiers pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez, c'est pas un... Enfin, vous êtes syndicaliste policier, je ne vais pas vous expliquer qu'il faudrait plus de policiers, c'est votre rôle de le dire, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait un sureffectif policier.
Alors, mais c'est pas mon rôle de le dire, mais j'allais pas vous dire qu'il y avait pas assez de policiers. Mon rôle, c'est de dire, nous avons 250 000 policiers et gendarmes, il faut aussi poser la question de leur organisation et du partage du territoire et des structures. Mais ça, c'est le premier point. Si vous me demandez un avis plus précis sur les polices municipales, s'il faut les armer, je crois qu'on est également en 2018. Le terme aujourd'hui à la mode, c'est le continuum de sécurité. Ça n'est ni plus ni moins que la coproduction de sécurité. Et la réponse est évidemment oui, avec des réserves.
Coproduction de sécurité. Mais parce que du coup, vous allez avoir des Benalla.
Non, des Benalla, ce sont des gens qui sont recrutés dans un cadre privé, sur des fonctions, que ce soit de chargé de mission ou autre chose, qui n'ont pas les formations que peuvent avoir les policiers nationaux, les gendarmes ou les polices municipales. Moi, je parle de gens...
Vous n'avez pas peur d'avoir des gens qui jouent au cow-boy, comme ça, qui montrent leurs armes pour faire des selfies, ce que les policiers ne font pas, bref, toutes les dérives qu'on peut avoir avec des gens qui ne sont pas dans une fonction régalienne.
Mais c'est justement pour ça qu'il faut asseoir la qualité du recrutement sur le mode que nous connaissons pour les policiers, pour les gendarmes, mais également pour les polices municipales qui doivent être encadrées en formation initiale. Mais si un continuum de sécurité est mis en place avec ces forces-là, qui peut aller ce continuum jusqu'à intégrer des forces privées, mais qui doivent être également encadrées, formées, surveillées, contrôlées et sanctionnées, je crois que le sujet est majeur et que c'est comme ça que nous pourrons enfin offrir une vraie sécurité globale aux Français.
David Le Barce, est-ce que ça existe encore l'idée qu'il y aurait une police de droite, une police de gauche? Est-ce que par exemple vous êtes un syndicaliste de droite ou un syndicaliste de gauche?
Écoutez, moi j'ai la chance et je pense que c'est une richesse de représenter le syndicat majoritaire des commissaires de police qui n'a jamais été étiqueté à droite ou à gauche. Nous sommes là pour apporter des réflexions, nous sommes là pour évoquer des sujets, pour soulever des problèmes et qu'au-delà de la politique, notre mission première c'est du syndicalisme et le syndicalisme c'est de défendre les intérêts collectifs et individuels des gens qu'on représente.
Bon, vous savez qu'on dit souvent que les gens apolitiques sont plutôt de droite, mais est-ce que ça a un sens? Alors pas pour vous puisque vous dites que vous êtes apolitique, mais police de droite, police de gauche?
Non. Je vais vous dire franchement, moi j'ai 25 ans d'exercice dans la police nationale et je n'ai jamais ressenti des appartenances ou des revendications de police de droite, police de gauche. Ça n'est pas un sujet au sein de la police nationale.
On a la sensation, indépendamment du terrorisme, que vos forces, les forces de la police, sont absorbées dans des missions à la Sisyphe, par exemple la lutte contre le cannabis. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui consomment du cannabis en France. David Le Barce, vous qui êtes commissaire divisionnaire, vous le savez bien, le fait de courir après des gens qui fument des joints, est-ce que ça ne participe pas à l'épuisement des forces? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas une ouverture sur un certain nombre de sujets?
Alors, sur ce sujet-là, que je connais bien, parce que j'ai démarré ma carrière dans le contrôle des trafics de stupes, hein, comme enquêteur, et j'ai eu mon dernier poste opérationnel très récemment en Seine-Saint-Denis. La lutte contre les trafics de stupes en France est un véritable échec. Alors, c'est pas un échec qui est imputable uniquement aux forces de l'ordre, c'est un échec majeur lié à un sujet sur lequel on tourne en rond, et tantôt on parle de dépénalisation, tantôt on parle de répression. On est incapable d'aborder ce sujet-là dans ses grandes largeurs. Moi, je sors d'un territoire où, quand on démantelait un trafic, ce qui nous prenait 6 mois et qui épuisait des fonctionnaires, il y en avait 9 autres qui continuaient parfaitement à fonctionner.
Trafic de cannabis ou trafic de drogue?
De tout type de drogue. Vous avez des points de vente aujourd'hui qui sont des points de vente avec des acheteurs qui viennent par centaines et qui sont qui alimentent eux-mêmes une économie souterraine gigantesque. C'est un véritable sujet, c'est un sujet de société majeur. Les conséquences de ces trafics, elles sont gravissimes, puisque effectivement les gens qui vivent dans certains de ces quartiers se retrouvent sous la coupe de trafiquants et de leurs complices et sont parfois obligés de montrer leurs pires identités pour rentrer chez eux. Et il va falloir un jour qu'on ait la capacité d'admettre que le trafic de stupes doit être pris également à sa racine et à savoir comment on veut vraiment lutter.
Juste une dernière question, David Le Barce. Qu'est-ce que vous attendez du prochain ministre de l'Intérieur?
Alors, une attente de prise en compte immédiate des vrais sujets. Ça, c'est sûr que quand il va...
Lesquels, rapidement?
Il y en a beaucoup. Alors, il y a les sujets internes. Déjà, dans la police nationale, il y a des élections professionnelles. Il y a un ministère qui est en crise quand même depuis quelques temps, puisqu'on sort d'une période très difficile, avec tous les attentats et les menaces nombreuses dont nous avons été victimes les uns et les autres. Il faut une prise en compte immédiate des dossiers et immédiatement faire le point sur les chantiers.
Merci beaucoup David Lebars d'être venu nous voir à France Culture. Vous êtes commissaire divisionnaire. On va continuer à s'interroger sur la police et sur le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Et on sera en compagnie d'un ancien ministre de l'Intérieur dans quelques instants. Brice Hortefeux, eurodéputé Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, sera notre invité dans une vingtaine de minutes. Nous sommes en duplex de France Bleu Alsace à Strasbourg avec Brice Hortefeux. Bonjour Brice Hortefeux.
Bonjour.
Vous avez été ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy de 2009 à 2011. Vous êtes aujourd'hui eurodéputé Les Républicains et vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons souhaité vous inviter ce matin pour évoquer les suites de l'après Gérard Collomb, nous dire également ce que vous pensez non seulement de cette situation au ministère de l'Intérieur, mais plus largement de la situation politique. Mais tout d'abord, peut-être une réaction à ce que vient de dire Frédéric Say, l'ambiance parmi les députés à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une ambiance particulière pour ce moment du macronisme ?
Oui, à l'évidence, une ambiance particulière parce que le système Macron lui-même s'est révélé très original. Vous savez, quand vous avez 7 ministres en 16 mois qui quittent le gouvernement, soit sous la contrainte, soit par une annonce dans une matinale de radio, sans prévenir précisément ni le Premier ministre, ni le Président de la République, soit en fixant la date de son départ, ou en tout cas annonçant la date de son départ comme un salarié pose ses congés, et c'est une situation inédite et il est assez normal. Il est assez logique que le fait que nous soyons dans un système qui est à la fois pagailleux et désordonné, pagailleux politiquement, désordonné institutionnellement, eh bien ça électrise.
Pour vous, hier soir, la démission de Gérard Collomb, effectivement assez inédite dans la forme, c'est un mauvais coup porté au président, ou finalement, comme le dit l'exécutif, c'est une péripétie qui fait la une des journaux, mais qui sera bien vite oubliée.
Non, c'est pas une péripétie. Des remaniements, des changements, des départs, ça s'est déjà produit. Moi, je veux pas caricaturer, mais la réalité, c'est que ça s'est jamais produit à ce tel rythme, sous une telle forme, sous la Ve République. Démissionner pendant le temps des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, au moment même où le Premier ministre répond, c'est naturellement pas un hasard, ce n'est pas anodin, cela témoigne d'une violence qui d'ailleurs est apparue par le côté glacial de la passation de pouvoir. Moi, dans ma vie publique, j'ai participé à plusieurs passations de pouvoir avec des personnes qui me succédaient ou qui me précédaient, pour lesquelles j'avais plus ou moins de sympathie, plus ou moins de liens d'amitié, mais je n'ai jamais vu une passation de pouvoir dans un tel climat.
Frédéric Say.
C'est un signal qui est tout de même très révélateur du système Macron en général.
Alors justement, au cours de cette passation de pouvoir effectivement assez froide hier, Gérard Collomb a pris une dernière fois la parole dans son ministère. Il a dressé sur le fond un constat assez alarmant. Je vous lis sa citation. « Aujourd'hui, dans les quartiers, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui ont pris la place de la République. » Ça vous surprend ce diagnostic de Gérard Collomb ?
Le diagnostic, je le partage, il a raison, cela correspond à une réalité, mais ils ont aussi leur part de responsabilité. Encore une fois, c'est un ministère que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup aimé, dans lequel j'ai pu mesurer un certain nombre de difficultés, mais c'est un ministère que l'on doit piloter. Et comme pour tous les ministres, il y a le temps de l'action, et puis quand on s'en va, il y a le temps du bilan. Et si la bonne volonté était évidente, moi je ne mets absolument pas en doute la bonne volonté de Gérard Collomb de bien faire. S'il y a eu des annonces qui étaient fortes, en revanche, les résultats sont assez faibles. Si vous prenez le cas de Paris, vous avez eu, depuis le début de l'année, plus de 5700 cambriolages. 5701.
Alors, justement, Brice Hortefeux, oui. Parce que, bon, il y a toute une série de statistiques. Si on observe, par exemple, l'évolution des effectifs de police et de gendarmerie, eh bien, on se rend compte que sous Nicolas Sarkozy, donc vous avez été ministre de l'Intérieur 2 ans, mais en fait, sur la totalité de la période, le nombre des policiers et des gendarmes ne cesse de décroître, et c'est François Hollande qui va augmenter ses effectifs. Comment vous expliquez cela ?
Mais écoutez, ce qui compte dans la lutte contre la délinquance, c'est plusieurs choses. Il y a naturellement la part humaine. Et les effectifs sont un élément constitutif. Je rappelle que les effectifs, globalement d'ailleurs, ont relativement peu bougé, mais enfin, c'est de l'ordre de 145 et 150 000 pour les policiers, autour de 95 000 pour les gendarmes.
Et bah, disons qu'il y a eu, juste pour fixer une idée pour les auditeurs, il y a eu environ 10 000 policiers et gendarmes de moins sous Nicolas Sarkozy.
Oui, mais vous êtes dans votre rôle. Et simplement, je rappelle que si vous tenez la question des effectifs, le passage aux 35 heures, cela aboutit à l'équivalent de la suppression de 8000 postes, par exemple. Bon. Mm-hmm. Mais donc, je termine dans la lutte contre la délinquance. Il y a naturellement la part humaine, c'est-à-dire les effectifs, mais il y a aussi la part des équipements, la part technologique. Et d'ailleurs, si c'était simplement une question d'effectifs, vous savez, on n'aurait pas vécu ce que l'on a connu. Entre 2002 et 2012, la délinquance globale a diminué. Ça ne veut pas dire que tout était réglé, mais la délinquance globale a diminué. Si l'on prend le nombre d'homicides, si on prend les atteintes aux biens, si l'on prend les violences aux personnes, si on prend les escroqueries économiques et financières. Bon, ça a diminué. En revanche, précédemment, ça n'avait pas cessé d'augmenter.
Alors, bon, parce que ça, 2002, sont des débats de chiffres, je pourrais vous dire, bon. Brice Hortefeux, par exemple, que les cambriolages ont augmenté lorsque vous étiez au pouvoir.
C'est un débat de chiffres, alors que c'est vous qui les évoquez, les chiffres.
C'est vrai.
Soit vous les évoquez et on les évoque complètement, soit vous expliquez que c'est pas un combat de chiffres. Dans ces cas-là, on n'en parle pas.
Mais non, mais alors, si on les évoque, dans ce cas-là, il va falloir les distinguer.
Et les dénoncer quand ça vous dérange.
Vous avez raison sur le principe, mais sur le fond, on pourrait distinguer des choses qui ont augmenté, des délits qui ont augmenté quand vous étiez au ministère de l'Intérieur.
Eh ben, je vous le dis, je le répète, mais sans doute je me suis mal exprimé ou vous n'avez pas compris, mais ça doit être certainement la première version, et c'est que entre 2002 et 2012, la délinquance globale avait diminué. Ça ne veut pas dire que tout était réglé, loin de là, mais elle avait diminué. Tandis que là, puisque vous m'encouragez à donner quelques chiffres, si je le comprends bien,
allez-y.
Tandis que là, aujourd'hui, vous avez à Paris une augmentation de 18% du nombre des cambriolages depuis le début de l'année. Vous avez une augmentation de tout ce qu'on appelle les agrégats, c'est-à-dire tous les indicateurs de la délinquance, sont malheureusement en augmentation, sauf, pour être tout à fait honnête, les vols véhicules, mais si vous prenez les coups et blessures, si vous prenez les homicides, si vous prenez les cambriolages, si vous prenez les vols, tout ceci est en augmentation. C'est donc pas un très bon signal. Et je rappelle qu'il y a aujourd'hui un peu moins, tout petit peu moins, 956 exactement, un tout petit peu moins de 1000 agressions par jour. Donc tout ceci ne constitue pas un bilan dont on peut se dire qu'il est totalement satisfaisant.
Bon alors, promis, je vous embête plus avec les chiffres, mais si on prend vos chiffres, si on considère que ces chiffres sont exacts, Brice Hortefeux, comment expliquer ?
Ce sont pas les miens, ce sont des chiffres officiels.
Nous vous croyons.
Les vôtres ne sont pas les chiffres. Les vôtres ne sont pas des chiffres partiaux, et les miens seraient des chiffres partiaux.
D'accord.
On a les mêmes chiffres et ce sont.
Brice Hortefeux, comment expliquez-vous cette augmentation récente ? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Qu'est-ce que Gérard Collomb, qu'est-ce que ses prédécesseurs auraient dû faire pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de la délinquance?
Écoutez, ça s'est produit. La lutte contre la délinquance repose sur plusieurs piliers. Il y a premièrement la capacité de prévention. Il y a la capacité d'intervention et il y a la capacité de sanction. Et moi, avec l'expérience que j'ai, avec certaines réussites, mais aussi certaines faiblesses, je vous affirme une chose, c'est que la certitude de la sanction est la meilleure des préventions.
Alors
et aujourd'hui, le problème, qui n'est pas d'ailleurs de simplement avant-hier, et qui remonte déjà aux lois Taubira, le problème, c'est que la sanction, elle était soit contestée, soit non appliquée. Et je vous donne un exemple simple. Avec les lois qui ont été adoptées précédemment et qui n'ont pas encore été remises en cause, malheureusement, un individu condamné jusqu'à 5 années de prison n'était pas certain d'en faire une seule journée. Eh bien, je considère que c'est une erreur.
Les aménagements de peine avaient aussi évolué sous Rachida
bien
Dati, c'est-à-dire sous Nicolas Sarkozy, jusqu'à 2 ans.
Bien sûr, mais bien sûr. Et d'ailleurs,
c'est pas uniquement Madame Taubira.
Si, c'est l'accélération, l'augmentation, le renforcement, c'est uniquement Madame Taubira. Mais il y a eu effectivement une loi pénitentiaire qui, à mon sens, n'a pas donné satisfaction. Moi, je suis pas venu vous voir ce matin pour expliquer que tout ce que l'on avait fait était absolument exceptionnel et tout ce qui a été fait depuis, il a été fait par des incapables qui ne voyaient rien. Et je vous dis, il y a une loi pénitentiaire qui a été adoptée et qui, à mon avis, n'allait pas dans le bon sens. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on s'apprêtait à la corriger.
Alors, on parle du futur de ce ministère de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Les syndicats de police, vous savez, se plaignent des tâches administratives qui leur prennent trop de temps. Est-ce que la proposition d'Emmanuel Macron, qui est de mettre en place une simple amende pour les consommateurs de cannabis, ce qui déchargerait ensuite la chaîne policière et judiciaire, ça vous semble une bonne idée ?
Ce qui est une bonne idée, c'est la décharge d'un certain nombre de tâches qui mobilisent des effectifs qui seraient mieux utilisés ailleurs. Alors, c'est par exemple les transferts pénitentiaires. Ça s'est amélioré. Il y a une tendance depuis plusieurs années, mais c'est encore une réalité. Vous avez un certain nombre de gardes statiques qui pourraient très bien être sous-traités. Bref, vous avez toutes ces panoplies. Maintenant, concernant l'utilisation du cannabis, je ne partage pas cette position. Je pense que là aussi, il faut qu'il y ait la certitude d'une sanction. Parce qu'on commence par lâcher du lait sur le cannabis, et après, on lâche du lait sur tout. On sait très bien que c'est un engrenage. Donc, je ne partage absolument pas cette analyse, même si c'est un combat très difficile, puisque vous connaissez la réalité des chiffres. Donc, moi, je mesure bien la difficulté, puisqu'on estime, en gros, que entre 40 et 44% des jeunes de 16 ans y ont touché un peu ou beaucoup, généralement un peu, donc ce qui prouve que c'est un phénomène qui n'est pas un phénomène marginal. Mais je ne suis pas pour que l'on cède du terrain sur ce sujet, parce que c'est un enjeu de santé publique et pour lequel on ne doit donner aucun signal de faiblesse.
Mais alors justement, Brice Hortefeux, tout à l'heure nous étions en compagnie d'un commissaire divisionnaire syndicaliste, David Lebars, et lui évoquait les ratés de la lutte anti-drogue. Il ne visait pas d'ailleurs particulièrement un gouvernement, il disait juste que depuis des années c'était Sisyphe. Est-ce que le fait de dépénaliser une portion de ces drogues, les drogues dites douces, ne faciliterait pas la vie des policiers et leur permettrait de se focaliser sur un certain nombre de délits qui sont peut-être des délits prioritaires?
Oui, mais je vous considère que c'est un délit précisément qui est prioritaire, parce que vous avez accolé deux mots qui sont en réalité incompatibles. Vous avez parlé de drogue douce. Non, soit c'est doux et c'est pas une drogue. Et si c'est une drogue, c'est dur. Parce que on sait très bien, toutes les enquêtes, toutes les expériences, toutes les analyses montrent qu'il y a un glissement de ce que vous appelez drogue douce vers des drogues qui sont plus dures. Donc il faut empêcher ce glissement. Moi je comprends très bien, les policiers parfois ont le sentiment de vider la mer avec une petite cuillère quand ils s'engagent dans ce combat. Mais c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que c'est harassant, c'est pas parce que parfois c'est décevant qu'il faut renoncer. Et si j'étais en responsabilité, je ne me lancerai absolument pas dans cette tendance et je ne validerai absolument pas un signal de faiblesse, non pas pour une quelconque autoritarisme, non pas par idéologie, mais tout simplement parce que c'est un enjeu de santé publique et que c'est un défi qui menace la catégorie la plus jeune, la plus fragile de la population. Donc il ne faut pas encourager cette tendance.
À 8h34 sur France Culture, on continue à évoquer les suites du départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Nous sommes en votre compagnie, Brice Hortefeux. Vous êtes en duplex de France Bleu Alsace à Strasbourg. Les policiers se disent épuisés par la politique du chiffre. Et cette politique du chiffre, c'est, semble-t-il, Nicolas Sarkozy qui l'a établie. Est-ce que là-dessus, vous pouvez concéder qu'il y a eu des erreurs, des abus ?
Mais je récuse totalement ce mot. C'est pas la politique du chiffre. Le chiffre, ça nous est complètement égal. Ce qui nous importe, c'est le résultat. Alors, si vous me dites politique du résultat, bien sûr, mais dans quelle activité on n'évalue pas le résultat ? Dans toutes les activités, on doit savoir quelle est la conséquence de son action ou de son inaction. Donc, ce qui est vrai, c'est que nous avons encouragé, d'ailleurs en donnant un certain nombre de moyens supplémentaires, et je rappelle que c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qu'a été, par exemple, donné des gilets de protection, des gilets pare-balles à chacun des policiers. Précédemment, ça tournait, ils se le passaient entre eux, et ainsi de suite. Donc, je pourrais vous donner de multiples exemples, parce que je crois beaucoup à l'équipement technique et technologique de la police. Et c'est moi, par exemple, qui ai décidé que lorsqu'il y avait des cambriolages, vous savez que c'est un fléau, peut-être même vous-même en avez été victime, c'est un fléau qui touche touche une partie très importante de la population, ou qui menace une partie très importante de la population, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il y ait à chaque fois des prises d'empreintes ADN à la police technique et scientifique, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, je vous le dis, c'est un défi permanent, c'est un défi extrêmement difficile, c'est un défi pour lequel on doit attendre des résultats et on doit juger en fonction des résultats, pas en fonction de l'air du temps. Donc, j'écarte totalement cette notion de politique du chiffre, et je revendique absolument la politique du résultat.
Mais vous entendez certains témoignages de vos concitoyens, vous entendez aussi certains responsables de syndicats policiers qui disent que pendant ces années Sarkozy, on avait de plus en plus de mal à faire enregistrer une plainte pour les délits mineurs, donnant le sentiment finalement qu'on était abandonné face aux incivilités.
En même temps, ce que vous me dites, c'est une contradiction, parce que
moins de plaintes, donc moins de chiffres.
On n'est peut-être pas d'accord avec Frédéric Saïs, mais c'est une autre question qui vous est posée.
Précisément. Et, au contraire, nous avons facilité au maximum et encourager la population à porter plainte de manière à ce que nous ayons toutes les données, toutes les références, ce qui donnait aussi en fonction du lieu, de l'origine, de la régularité de certaines agressions que l'on connaît grâce aux plaintes, et bien de manière à mieux remonter parfois à la source, je pense notamment au cambriolage.
Donc c'était une vue de l'esprit que les plaintes n'étaient pas prises ou moins prises?
Mais si je prends l'exemple des cambriolages, il y a naturellement le petit cambriolage de proximité, ainsi de suite, mais il y a aussi beaucoup de réseaux. Pour que ces réseaux de cambriolage soient mieux connus, pour lesquels ils puissent être démantelés, et naturellement, ça repose sur des plaintes et les informations qui sont contenues dans les plaintes. Donc, au contraire, moi, je souhaitais, quand j'étais encore une fois dans ces fonctions, et j'imagine d'ailleurs que les ministres de l'Intérieur qui m'ont succédé depuis, et sans doute Gérard Collomb lui-même, encourageaient à ce qu'il y ait ces dépôts de plaintes.
Alors toujours Frédéric sur le Seize. Futur de ce ministère de l'Intérieur, à droite, certains ont plaidé pour un grand ministère qui regrouperait à la fois le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice. Est-ce que vous y êtes favorable compte tenu de votre expérience? Est-ce que ce n'est pas le risque d'un grand léviathan un peu incontrôlable?
Oui, ça existait dans un certain nombre de pays. Je me souviens que j'avais fait le tour des capitales européennes pour observer ce qui existait ou comment cela fonctionnait à un certain nombre d'endroits. De mémoire, je crois qu'il y avait, il y a quelques années, avant d'ailleurs même que je sois en fonction, c'était dans deux pays différents, le petit pays à Malte, où il y avait le ministre de la Justice, était en même temps ministre de l'Intérieur réciproquement, et aussi en Hongrie. Je m'empresse de dire que c'était avant Viktor Orban, et qui lui a séparé les deux ministères, Justice et Police. Non, c'est pas exactement. Je pense pas qu'on puisse revenir sur ce dispositif. S'il y a une réflexion à engager, mais je le dis avec beaucoup de prudence, mais si on fait de la prospective, la question peut se poser pour l'évolution du ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez que le ministère de l'Intérieur, au départ, c'était simplement la police. Ensuite, ça a été pour utilisation d'emploi la police et la gendarmerie. Et le hasard a fait que je suis arrivé, moi, en fonction, à un moment donné où il y avait une loi qui avait modifié ces équilibres et qui avait placé complètement la gendarmerie qui conservait son statut militaire sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est peut-être concernant la pénitentiaire, qui dépend donc du ministère de la Justice, et peut-être des douanes qui dépendent du ministère du Budget, qui dépendent de Bercy. Il y a peut-être une réflexion à avoir, encore une fois, en prenant le temps, en réfléchissant bien, en faisant des comparaisons européennes et internationales sur la question du regroupement de l'ensemble des forces qui ont la responsabilité de la protection et de la sécurité. C'est peut-être une piste de réflexion.
Autre question, Brice Hortefeux, sur la lutte contre le terrorisme. Quel bilan pourriez-vous dresser de cette lutte, notamment sous Gérard Collomb, mais également peut-être avec ses prédécesseurs? Qu'en diriez-vous?
Bon, la lutte contre le terrorisme, c'est dans notre pays et à l'échelon européen, c'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que la France, avec quelques autres pays d'Europe, est dans une situation particulière. D'abord, nous sommes le troisième pays au monde, hors zone de conflit, victime du terrorisme. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, nous sommes à la fois pays cible et pays source. Nous sommes pays cible, puisqu'il y a eu, je crois, depuis une dizaine d'années, 15 ou 16 attentats. Et donc cible, et en même temps pays source, puisque les terroristes proviennent pour partie de ressortissants, soit français, soit vivants, sur le territoire français. Troisième élément concernant le terrorisme, il y a toujours eu des menaces terroristes dans notre pays. En tout cas, il y en a eu très souvent, mais jamais à ce niveau. On a connu des époques où il y avait quelques dizaines de personnes suspectées d'être capables de commettre des actes terroristes. Aujourd'hui, on a changé totalement de dimension. C'est pas quelques dizaines, c'est plusieurs centaines d'individus qui sont susceptibles d'être tentés par des actes terroristes. Et je parle pas des fichiers S, qui, vous savez, qui rassemblent en réalité, en matière de terroristes islamiques, en l'occurrence, à peu près 10 000 noms, ou le fichier de prévention de la radicalisation, et qui augmente considérablement. Je vous rappelle qu'en 2 ans, il a augmenté d'un peu plus de 60%. Et on en est à autour de 20 000, 19 700, je crois, de mémoire. Donc, ces trois caractéristiques. Est-ce qu'il y a eu des initiatives utiles qui ont été prises? La réponse est oui. C'est le cas, tout ce qui avait été initié sous Nicolas Sarkozy. Je vous dis que c'est le cas aussi avec ce qui avait été engagé par Bernard Cazeneuve, et ceci est dans le prolongement.
Alors, en 7 ans, si on fait le calcul, il y a eu en tout 9 lois antiterroristes ou pour renforcer les services de renseignement. Est-ce que ces lois sont finalement si inefficaces qu'il faille en permanence en générer de nouvelles?
Non, mais je sais, c'est aussi une question qui m'était posée lorsque j'exerçais ces responsabilités, ou quand je dis une question, c'est pour être aimable, parce que c'était plutôt des reproches. Moi, je partage absolument pas cet avis. Et la lutte contre la délinquance, et donc la lutte contre le terrorisme, c'est un combat qui doit s'adapter en permanence, parce que la délinquance évolue sans arrêt, et que le terrorisme lui-même bouge, je viens de rappeler, ne serait-ce que déjà quantitativement.
Donc il faut encore de nouvelles lois.
Il faut être réactif. Donc si le premier impératif, c'est d'appliquer au mieux les lois existantes, et c'est vrai qu'il y a un arsenal qui est important, qui est utile, qui d'ailleurs sert souvent de référence à l'échelon de l'Europe, mais s'il peut arriver que cela doive s'adapter, il peut y avoir des lois, par exemple, sur les périmètres de sécurité. Il peut y avoir des lois sur les fermetures, des évolutions sur les fermetures de mosquées salafistes. Je précise bien, pas de mosquées, fermeture de mosquées salafistes, mosquées extrémistes. Et donc, il est possible que l'on doive adapter l'arsenal juridique. Est-ce que ce sont des lois, est-ce que ce sont des circulaires, est-ce que ce sont des règlements? Ça, c'est autre chose. Mais qu'il y ait une nécessité d'adaptation permanente, personne ne comprendrait qu'il y ait un texte, que ça soit du granit et qu'on n'en bouge pas, alors que la menace évolue considérablement.
Une dernière question, Frédéric Seitz.
Oui, une question d'actualité. Brice Hortefeux, Mediapart révèle que Claude Guéant a été mise en examen dans l'affaire du présumé financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 pour complicité de corruption passive et complicité de financement illégal de campagne électorale, entre autres. Est-ce que c'est quelqu'un en qui vous gardez confiance?
Écoutez, moi, vous évoquez le fait qu'il y a une procédure. Moi, je ne vais pas commenter une procédure. Je sais simplement que Claude Guéant a été un très grand préfet, qui faisait autorité dans le corps préfectoral, qui était unanimement considéré et respecté, et qu'ensuite, il a été le secrétaire général de l'Élysée, et qu'il a fait exercer ses fonctions en toute confiance. Et pour le reste, moi, je ne fais aucun commentaire sur ce qui est l'actualité que vous évoquez.
Vous lui maintenez votre confiance?
Mais naturellement, comme j'imagine vous-même, puisque tant qu'il n'y a pas de condamnation, il y a naturellement la présomption de l'innocence. Donc je suis sûr que vous adoptez la même attitude.
Frédéric Seitz, pour l'instant, réserve sa question. Une dernière question, Brice Hortefeux. Est-ce que le successeur de Gérard Collomb pourrait venir des rangs de la droite, Frédéric Pechenard, par exemple?
Oh, ça, c'est le choix du président de la République. Vous savez, quand je parlais des ordres institutionnels... Oui, bien sûr. Mais quand je parlais des ordres institutionnels, c'est précisément toutes ces annonces, tous ces départs qui sont quand même très curieux. Il y a une règle constitutionnelle, c'est l'article 8. L'article 8 prévoit que c'est le président de la République, sur proposition du Premier ministre, qui nomme les ministres. Eh bien, écoutez, déjà, il a du mal à exercer beaucoup de ses responsabilités. J'espère que celle-là, il l'assumera correctement.
Merci beaucoup, Brice Hortefeux. Je rappelle que vous êtes eurodéputé Les Républicains, vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce duplex a été rendu possible grâce à France Bleu Alsace à Strasbourg.